tout de suite le journal. Mariam El Kurdi, bonsoir.
Bonsoir. Le poids excessif du camion qui a emprunté le pont de Mirepoix sur Tarn, près de Toulouse, est à l'origine de l'effondrement qui a fait 2 morts hier matin. Explication dans un instant. Emmanuel Macron au congrès des maires de France. Au menu, une déclaration de reconquête, mais pas d'amour. Au sommaire également, le procès du premier attentat djihadiste commis dans une prison française. C'était en 2016 dans le Val d'Oise. Une répression à huis clos qui inquiète sérieusement les ONG et l'ONU. C'est en Iran, probablement des dizaines de morts en 4 jours. Il fait rire les adolescents, mais pas du tout les autorités sanitaires. Le gaz hilarant, nouvelle drogue en vogue. Les conséquences sont très graves pour la santé. Enfin, les derniers adieux à Raymond Poulidor, mort la semaine dernière. C'était dans son village de Haute-Vienne. Reportage sur place.
France Inter.
Il soigne sa relation avec les élus locaux à 5 mois des municipales. Cette fois, Emmanuel Macron a fait le déplacement au congrès des maires de France, porte de Versailles à Paris. Pas comme l'an dernier où il s'était contenté de recevoir quelques élus à l'Élysée. « Rien ne se fera sans vous », a déclaré Emmanuel Macron devant les milliers d'élus locaux réunis. « J'ai besoin de vous », a répété le chef de l'État. Il a aussi affirmé qu'il avait beaucoup appris aux côtés des maires. Un discours de reconquête, mais pas forcément accueilli avec chaleur. Les élus en attendaient plus sur le fond, Cyril Graziani.
Il faut dire que le président a été cueilli à froid par François Baroin et André Léniel qui ont remis sur la table la question de la taxe d'habitation, toujours pas digérée. Réponse ironique du chef de l'État.
Si durant votre campagne, beaucoup de vos électeurs vous reprochent la baisse, faites-le moi savoir et qu'ils viennent se plaindre. Et parfois, peut-être, vous aurez le droit d'empocher les félicitations qu'ils vous livrent à vous et pas au gouvernement, parce que c'est ce qui va vous arriver.
Alors Emmanuel Macron leur concède, il a tant appris des maires. Eux, en revanche, n'ont pas appris grand-chose cet après-midi, si ce n'est que le chef de l'État demande à être jugé sur les actes.
Les actes, c'est une augmentation de la couverture numérique du territoire inédite. Les actes, c'est l'ouverture des 460 premiers France Service en janvier 2020. 2000 nouveaux cafés dans nos petites villes d'ici quelques mois dans le cadre de l'agenda rural. Les actes.
Et il égrène ainsi toutes ces réformes pour montrer qu'une partie de son action est en direction des élus locaux. Mais surtout, le chef de l'État a misé sur le régalien, notamment un sujet attendu, les listes communautaires aux municipales prochaines. Et sa position est claire.
Il ne s'agit pas de proclamer l'interdiction pour régler le problème. Nous avons eu dans d'autres temps de la République ces débats. Qui peut penser d'ailleurs que de telles listes se présenteront à visage découvert, avec spontanéité et clarté? Non. Si les choses étaient si simples, nous n'aurions pas tant de difficultés. Ceux qui développent un projet communautariste, cet islam politique que j'évoquais, un projet de division de la nation en détournant une religion de ses fondements, très souvent se cachent, se dissimulent. C'est là toute la difficulté.
Réponse en forme de fin de non-recevoir à Bruno Retailleau qui a déposé une proposition de loi en ce sens. Emmanuel Macron a renvoyé aux prochaines semaines ses réponses sur le communautarisme ainsi que sur tous les autres sujets avant de s'offrir une bonne demi-heure d'échange avec les maires en bas de l'estrade.
Cyril Graziani pour France Inter. Le quotidien des maires, on le sait, n'est pas toujours facile. Un homme a été condamné aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Dijon pour avoir menacé arme en main l'adjoint à la mairie de Jallanges en Côte d'Or. L'élu avait demandé à des jeunes de ne pas stationner sur une aire de jeu. Réponse du prévenu, insulte, menace avec une serpette et une matraque jusque devant la mairie où l'élu était allé se réfugier. L'enquête avance sur l'accident de Mirepoix-sur-Tarn en Haute-Garonne. L'effondrement brutal d'un pont suspendu hier matin. Bilan, 2 morts, une jeune fille de 15 ans qui était en voiture avec sa mère et le chauffeur du poids lourd. La cause immédiate et apparente semble être le poids lourd du véhicule qui a emprunté le pont. C'est ce qu'a précisé le procureur de Toulouse aujourd'hui. Le camion pesait largement plus que le poids autorisé pour circuler sur ce pont, Stéphane Iglesis.
L'ensemble routier, poids lourd et engins qu'il transportait pesait plus de 50 tonnes. Le procureur a expliqué que le chauffeur décédé, par ailleurs patron de l'entreprise, connaissait parfaitement les lieux, qu'il passait souvent sur ce pont avec des engins de tout tonnage, le plus souvent légers, et qu'il a pu prendre ce trajet par habitude. Reste que le pont, où un seul camion seulement peut circuler, est limité à 19 tonnes. D'ailleurs, dès que l'ensemble routier s'est engagé, le pont s'est effondré. La Clio blanche qui arrivait en face a commencé à freiner, voire à tenter de reculer, mais elle a été entraînée par la chute de la chaussée. En plus des plongeurs sapeurs-pompiers utilisés hier, des plongeurs enquêteurs de la gendarmerie sont aussi à l'œuvre, notamment pour tenter de modéliser la scène d'accident en 3D pour la suite de l'enquête. Enfin, le patron des gendarmes dément que de nombreux camions trop chargés passent souvent sur ce pont et que la gendarmerie en ait été informée. Toulouse, Stéphanie Glaizis, France Inter.
Le premier procès d'un policier pour des violences volontaires lors d'une manifestation des Gilets jaunes à Paris, ce sera jeudi. Le fonctionnaire a été filmé en train de lancer un pavé vers des manifestants. On ne sait pas où a atterri le projectile. La scène a eu lieu le 1er mai dans le 13e arrondissement de la capitale. Lui a été blessé à l'œil gauche samedi dernier à Paris lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Manu, 41 ans, il a été touché par un projectile, sans doute tiré par les forces de l'ordre, l'enquête le dira. En tout cas, ce qui est sûr pour l'instant, c'est que la victime a perdu l'usage de son œil. Sa compagne, Séverine, est allée le voir à l'hôpital à Lille cet après-midi. Son témoignage au micro de Bénédicte Robin de France Bleu Nord.
Il a du mal à encaisser le fait que il a perdu la vue d'un côté. Il dit que sa vie, elle est fichue. Il se demande ce qu'il va pouvoir faire, comment il va pouvoir continuer à vivre normalement, conduire, travailler. Voilà, c'est vraiment les questions importantes. Je sais qu'il a énormément de rage en lui, mais pour l'instant, elle ne sort pas. Il l'a, mais il la garde. Il a plus le sentiment vraiment d'injustice. Parce qu'à plusieurs reprises, il m'a dit « mais c'est pas juste, j'ai rien fait, je comprends pas ». Et en fait, c'est ça le problème, c'est que on comprend pas pourquoi un manifestant pacifiste en train de parler se prend une grenade et perd son œil, quoi.
Vous vous ressentez quoi ?
C'est pareil, j'ai énormément de colère en moi, que j'essaye de contenir parce que je dois être forte pour lui.
Vous comptez porter plainte ?
Évidemment. Il est hors de question qu'on laisse passer ça. Et là, on ira jusqu'au bout. On est gilets jaunes, on lâchera rien. Et voilà.
Et le parquet de police a ouvert une enquête. L'IGPN est également saisie à la demande du ministre de l'Intérieur. En tant que femme, je me sens un peu salie. Témoignage d'une victime présumée de l'ancien chirurgien Joël Le Squarnec. Ce médecin, aujourd'hui à la retraite, est accusé de viol et d'agression sexuelle sur des patientes mineures pendant près de 30 ans dans le centre et l'ouest de la France. Il y aurait près de 250 victimes. 184 plaintes ont été déposées à ce jour. Toujours au chapitre justice, l'ouverture aujourd'hui du procès du premier attentat djihadiste commis en prison. En France, aux assises de Paris. L'accusé, c'est Bilal Taghi. Avant son arrestation en 2015, il avait tenté de rejoindre la Syrie pour faire le djihad. Projet raté, il tente son propre djihad, entre guillemets, depuis la maison d'arrêt du Val d'Oise. En 2016, il tente d'assassiner deux surveillants. Lui qui pourtant était placé dans l'aire dite de déradicalisation de la prison. Durant l'audience aujourd'hui, l'accusé n'a d'ailleurs pas manqué d'attaquer ses unités dédiées aux détenus radicaux. Charlotte Piret.
J'avais l'impression d'être des rats de laboratoire. Interrogé à l'audience sur cette unité dédiée, ce quartier spécifique de prise en charge des détenus radicalisés, au sein duquel Bilal Taghi a mené son attaque, l'accusé ne mâche donc pas ses mots. En septembre 2016, lorsqu'il agresse violemment deux surveillants de la prison d'Oni, l'unité a à peine quelques mois, elle ne survivra pas à l'attaque. Vous rassemblez des gens qui pensent pareil et vous leur demandez de changer tous ensemble, c'est impossible, lance l'accusé à l'audience, tout en dénigrant les activités spécifiques proposées à l'époque. En quoi nous faire faire de la peinture au doigt par terre fera de nous de meilleures personnes pour la société, en quoi faire du yoga et de la relaxation fera de nous de meilleurs citoyens. Au juge d'instruction, rappelle la présidente, vous avez même déclaré, s'ils avaient été aussi forts qu'ils le prétendent, ils auraient pu voir que je me moquais d'eux depuis le début. Pourtant, à l'audience, Bilal Taghi veut faire croire à sa sincérité, sa prise de recul face à l'islam radical, ses larmes quand il évoque sa famille, lui qui, à l'issue de son expertise, a demandé « Alors docteur, je suis fou ou pas ?» Pour la première fois, j'ai fait une exception et j'ai répondu, explique l'expert psychiatre à la barre. Je lui ai dit « Vous n'êtes pas fou, vous êtes un fou de Dieu ».
Le procès doit durer jusqu'à vendredi. Voilà qui inquiète sérieusement les autorités sanitaires. Le gaz hilarant, le nom officiel de cette substance, c'est le protoxyde d'azote. Il est vendu en supermarché, sous forme de cartouche pour les siphons de cuisine. Très facile d'accès, donc pas cher et totalement légal. Sauf que de plus en plus de jeunes inhalent ce gaz comme une drogue. Les conséquences pour la santé peuvent être très graves. Les gaz hilarants peuvent provoquer de sérieux troubles neurologiques. Les autorités sanitaires alertent sur un problème de santé publique massif, Mathilde Dohimi.
Des autorités inquiètes devant la banalisation de l'usage détourné de ces capsules pour faire de la chantilly. Depuis 2 ans, le nombre de consommateurs, principalement des hommes entre 18 et 34 ans, augmente et l'inhalation régulière de ces produits peut entraîner des effets très graves, rappelle le docteur Nicolas Price. Il préside la MIL2K, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et addictions.
On a 10 cas de personnes qui ont eu des complications neurologiques graves, qui sont liées donc à cet épuisement en vitamine B12 avec une atteinte au niveau des nerfs et notamment de la moelle épinière, avec des dysfonctionnements neurologiques type paralysie, troubles sensoriels, troubles sensitifs ou douleurs.
Ajoutez les risques immédiats au moment de l'inhalation, asphyxie, perte de connaissance, brûlure aussi par le froid puisque le gaz est sous pression. La mission interministérielle alerte les usagers et leurs proches, mais pas seulement Nicolas Price.
On en appelle aux organisateurs de soirées. On a vraiment des gens qui ont été jusqu'à mettre à disposition des bars à proto à côté des bars habituels dans certaines soirées étudiantes. Et puis, un appel à la responsabilité aussi des commerçants pour essayer d'avoir une vigilance lorsque des jeunes passent en caisse avec 50, 100 capsules de protoxyde d'azote.
Interdire leur vente aux mineurs semble compliqué. Les cartouches sont en vente libre partout et ce ne sont pas les plus gros consommateurs. Mais la 1002K dit se pencher sur un éventuel changement de réglementation.
Mathilde Dehimi pour France Inter.
France Inter. Maria Melchiordi.
À l'étranger, l'inquiétude des ONG et de l'ONU concernant une répression qui se déroule loin des caméras. C'est en Iran. La contestation dure depuis 4 jours. Elle a gagné des dizaines de villes. Mouvement déclenché quelques heures vendredi après l'annonce d'une augmentation du prix de l'essence sur fond de crise économique. Combien de morts dans cette répression? Le bilan pourrait être élevé. Plus de 100 selon Amnesty International, des dizaines selon l'ONU. Christian Chesneau.
Et l'ONU tire la sonnette d'alarme car le bilan de 5 morts, dont 3 membres des forces de l'ordre présentés par les autorités iraniennes, semble très largement sous-estimé compte tenu de l'usage de tirs à balles réelles dénoncés par les Nations Unies et Amnesty International. Il est très compliqué d'avoir une idée précise des événements sur le terrain et du bilan humain car la répression se déroule presque à huis clos dans une dizaine de provinces. Quelques vidéos parviennent à franchir le couvre-feu numérique instauré sur la toile iranienne et donnent une petite idée de la contestation. L'internet reviendra quand il ne sera plus utilisé à mauvais escient, a fait savoir un porte-parole du gouvernement iranien. En attendant, les autorités de Téhéran ont demandé à la population de signaler aux forces de sécurité les séditieux qui troublent l'ordre public, selon le vocabulaire de la République islamique. Dans ce contexte très tendu, les gardiens de la révolution ont déjà averti qu'ils pourraient prendre des mesures décisives si la contestation devait se poursuivre.
Et à Hong Kong, des dizaines de manifestants pro-démocratie toujours retranchés dans l'université polytechnique. Les étudiants bravent les appels des autorités à se rendre malgré les menaces d'intervention musclée de Pékin. Le siège du campus dure depuis dimanche. C'est la confrontation la plus longue et la plus violente depuis le début de la contestation en juin. Adieu Poupou. Ils étaient des centaines à avoir bravé le froid pour rendre un dernier hommage à Raymond Poulidor en Limousin. L'éternel second du Tour de France est mort la semaine dernière à 83 ans. Ses obsèques ont eu lieu dans son village de Haute-Vienne, à Saint-Léonard de Noblat. Beaucoup d'anciens cyclistes présents, mais aussi des anonymes, nombreux, très émus. Un hommage en musique, au son de l'accordéon et un surnom sur toutes les lèvres, Fanny Le Chevestrier.
Poupou revient à même lancer Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, devant un parterre de 400 personnalités présentes dans la collégiale. Mais au son de l'accordéon, c'est tout un peuple, celui du vélo, qui voulait rendre hommage à son Poupou, comme Philippe, venu de Normandie, arrivé aux aurores pour avoir sa place devant l'écran géant dans le froid piquant de novembre.
Parce que c'est notre Poupou. On a eu la chance de passer ici en 2018. Il était là et il nous a accueillis. C'est un merveilleux souvenir. On s'est dit qu'on devait revenir lui dire au revoir.
Et ils étaient nombreux, les yeux rougis, à l'image de Marc Madiot, l'un des nombreux anciens coureurs à avoir fait le déplacement pour saluer l'un des siens.
Il faisait encore partie du peloton. Puis encore une fois, il parlait beaucoup de ses petits-fils parce qu'il était extrêmement fier de l'évolution de ses deux garçons.
Son petit-fils, grand espoir du cyclisme, Mathieu Van Der Poel, qui fit lire ce message par sa mère Corinne en larmes. « Toi si fier d'être mon grand-père, moi encore plus fier d'être ton petit-fils. Tu es mon plus grand champion. » Pour Jean-Marie Leblanc, ancien directeur du Tour, il faudra d'ailleurs patienter bien longtemps pour voir un sportif égaler un jour Raymond Poulidor.
Je me demande demain quel champion, tout sport confondu, va susciter autant d'engouement, j'allais dire autant d'amour.
Lui qui, dit-il, aimait tant la vie et l'hymne à l'amour, ultime chanson choisie pour lui dire adieu.
Que tu sois loin de moi, peu m'importe.
Et oui, l'hymne à l'amour pour dire adieu à Poulidor. Le prochain hommage, ce sera sur le Tour de France le 9 juillet pour la 12e étape.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Quel temps nous attend, Élodie Calac?
Un temps calme et froid, dégelé le matin, souvent moins 2 à 1 degré, un peu plus près des côtés en vallée du Rhône. Sur la plupart des régions, le réveil sera encombré, beaucoup de grisailles sur la moitié nord, sur le Lyonnais et dans la vallée de la Garonne. Quelques averses pour la Côte d'Azur et la Corse, mais du soleil près des Pyrénées, sur l'ouest du Massif central et les massifs de l'Est. L'après-midi, ça s'éclaircira nettement sur l'ouest et le centre du pays. La grisaille aura plus de mal à se morceler du nord de la Seine vers le nord-est et en vallée du Rhône. La pointe bretonne restera sous les nuages avec quelques gouttes en prime. Il fera 5 degrés à Amiens, Paris, Mulhouse, 7 à Rennes, 10 degrés à Bordeaux et à Lyon, 14 degrés à Perpignan, Marseille et 17 à Bastia.